lire le journal, écouter la radio, parcourir des essais, décortiquer des articles académiques, débattre en cours et dehors, c'est ainsi que nos esprits se forment dans cette école. Mais le roman, la fiction, le léger décalage avec le réel qu'il nous offre, permet d'ouvrir de nouvelles perspectives, de changer notre regard, de ressentir, en plus de comprendre. Tel est l'esprit des 5 livres sélectionnés par le prix littéraire des étudiants et des étudiantes de Sciences Po pour cette 5e édition.
Bonjour chères auditrices et auditeurs, on se retrouve pour notre 3e émission en partenariat avec le prix littéraire de Sciences Po. J'ai le plaisir de recevoir Clara Arnaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, mais on vous définit souvent aussi par votre goût du voyage et de la nature. En août dernier, vous publiez votre 3e roman, Et vous passerez comme des vents fous. Dans ce livre, vous croisez 3 récits, liés sans pour autant se croiser totalement par leur rapport aux montagnes d'Ariège dans lesquelles ils se déroulent. 3 récits qui correspondent donc à 3 protagonistes. Jules, montreur d'ours, parti aux États-Unis pour tenter de faire fortune à la fin du 19e siècle. Alma, une jeune éthologue qui se passionne pour l'étude des ours. Et Gaspard, un berger qui, on le comprend très vite, a vécu un traumatisme l'été précédant le récit. Traumatisme que je ne révélerai pas. Ce qui unit vos personnages, ce sont leurs rapports aux ours et à la nature, entre respect, peur et hubris aussi, pour Jules notamment. Dites-vous-même, quelques ours ont traversé ma vie. Quel rapport avez-vous eu avec ces ours et quel regard avez-vous vous-même porté sur eux ?
Alors, en effet, quelques ours ont traversé ma vie ou mon champ de vision parce que j'ai eu l'occasion, entre 2006 et 2016, enfin, et même jusque récemment, de fréquenter l'Asie centrale et le Caucase, donc deux régions de montagne, de hauts plateaux, de steppe, dans lesquelles, en partie, en tout cas, certains territoires sont peuplés d'ours. Et je disais 2006 et 2016 parce que ce sont les deux années où j'ai eu l'occasion de croiser des ours, mais donc c'est des territoires que je fréquente depuis 2006. Un premier en 2006 qui m'est apparu alors que je voyageais à cheval au Kyrgyzstan, et un second qui m'est apparu dans le Grand Caucase en 2016. Donc ça a été des rencontres extrêmement fugitives, très brèves, mais très marquantes, probablement plus en raison de poids symbolique de cet animal que juste de cette vision. Et puis, aussi, je l'ai beaucoup croisé dans les récits des bergers, alors dans l'Asie centrale, évidemment, dans le Grand Caucase aussi, en Géorgie, en Arménie, mais également dans les Pyrénées, où l'ours a été réintroduit à partir, et la population d'ours s'est reconstituée à partir aussi de quelques spécimens pyrénéens qui avaient survécu, et où l'ours est omniprésent dans les craintes et les récits notamment des bergers, des chasseurs ou des naturalistes, en tout cas les gens qui, pour diverses raisons, fréquentent la montagne et sont amenés à les croiser ou à croiser leurs traces.
Et du coup, ces personnes portent des regards très différents sur les ours. C'est pour ça que je vous posais cette question du regard. Dans votre roman, notamment, Alma, qui est passionnée par l'étude des ours, c'est également celle qui arrive, enfin je trouve, à avoir le regard le plus dépassionné sur la question. Et en fait, elle est très consciente de un petit peu la stérilité et la radicalisation des positions qui entourent cette présence des ours. Et elle parle à ce propos d'une guerre, je vous cite, « guerre dont personne ne sortirait gagnant, qui poussait chacun à devenir une caricature de lui-même. L'impossibilité de débattre, l'incompatibilité des positions comme une forme de fatalité, ce sont des thèmes qui traversent un peu votre roman. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé ? Est-ce que vous pensez qu'on peut débattre autour de ces questions ou c'est trop passionné et l'ours c'est trop symbolique ?
Alors ça dépend dans quel territoire. En l'occurrence, il y a quand même des territoires, qu'il s'agisse du Caucase ou plus proche, dans les monts Cantabriques en Espagne, dans les Asturies, où il y a une coexistence qui fonctionne à peu près, alors avec des heurts, des frictions, des violences, etc., de part et d'autre. Mais globalement, l'ours fait partie, en gros, du paysage. Je crois que c'est aussi le cas dans les Carpates, en Slovénie. Après, ça, c'est des territoires que je ne connais pas personnellement. Je sais que c'est le cas en Alaska, que c'est le cas en Sibérie. Enfin bref, là, on parle d'autres espèces d'ours, mais n'empêche. Les Pyrénées est un cas de figure où la situation est extrêmement compliquée et passionnée. Et où, effectivement, on est souvent sommé de se prononcer pour ou contre. Pour ou contre la présence de l'ours, pour ou contre poursuivre les réintroductions, pour ou contre le protéger. Moi, il y a une chose qui traverse de toute façon toute ma littérature et ma vie en général, c'est que je ne supporte pas les positions manichéennes, ça ne m'intéresse pas, je trouve que ça ne correspond pas à la complexité, ça ne rend pas justice à la complexité de la réalité, d'ailleurs de part et d'autre. Et en plus, je trouve également qu'on se rend compte, et là sur le terrain pyrénéen que je connais bien, hein, j'y vis désormais, on se rend compte que quand justement on arrive à parler avec les gens de manière posée, plus au calme, enfin c'est difficile, mais quand on arrive à percer un petit peu cette première carapace de position caricaturale de défense ou d'antagonisme, les gens ont souvent des points de vue plus mesurés, plus complexes, plus nuancés sur les choses. Et en ce qui concerne l'ours, qui est aussi un facteur qui réunit tout le monde, aussi bien ceux qui veulent l'exterminer que ceux qui veulent le protéger à tout prix et à n'importe quel prix, qui a une fascination. Et ça, c'est vraiment un animal qui a un statut très particulier depuis très longtemps dans différentes civilisations ou sociétés, aussi bien pyrénéennes que sibériennes ou en Alaska, pour prendre des exemples un peu archétypiques. Qui est une position à part dans le règne animal, et en tout cas dans la représentation que les humains s'en font.
Pour écrire ce roman, vous êtes du coup allé vous installer dans les Pyrénées. Je me suis demandé, est-ce que cette fascination pour les ours, est-ce qu'elle vous vient de là ou est-ce que vous l'aviez déjà avant? Et est-ce que le fait de vous installer là-bas, ça vous a permis de trouver des modèles pour vos personnages, ou est-ce que vous êtes devenu vous-même un petit peu chacun de vos personnages en fait?
Alors, il y a plusieurs questions en une, en fait, mais je me suis installée dans les Pyrénées au-delà de cette question de l'ours. L'ours, c'est une des choses qui m'a intéressée dans le territoire des Pyrénées où je me situe, qui s'appelle le Couserans, qui est une partie de l'Ariège, qui est une région où se concentre la plus grande partie des ours des Pyrénées, et c'est une toute partie de la chaîne en réalité, et qui est, pour aller vite, la région la plus sauvage des Pyrénées, et je pense la région la plus sauvage de haute montagne en France. En tout cas, c'est mon avis. C'est pas pour rien que les ours sont là, ils sont là parce qu'ils ont besoin d'un biotope extrêmement complet et qu'ils ne le trouvent qu'ici en France. Et c'est ça qui m'a intéressée. Donc en quelque sorte, et d'ailleurs je m'y suis installée pas juste pour écrire, mais aussi au-delà de ça pour avoir un lieu d'écriture et de retraite et de vie, bien au-delà de ce livre-là. Donc c'est pas une installation provisoire, c'est... un camp de base que j'ai établi dans ce lieu qui est destiné à être mon point de retour entre deux voyages, entre deux expatriations, entre deux projets. L'ours, pour moi, c'était presque un prétexte parce que sa présence est justement un révélateur de la richesse des écosystèmes et justement un révélateur de la spécificité des forêts, des montagnes qui constituent ce territoire. Et en quelque sorte, voilà, il est un indicateur de bonne santé des écosystèmes. Et puis, je trouve qu'il y avait là aussi, au-delà de ça, d'un point de vue littéraire, matière à explorer toutes les relations qu'on a avec le sauvage. Et pour finir sur votre question des personnages, dans tous les personnages, y compris les plus loin de moi, et ça, les lecteurs le voient souvent moins, il y a des personnages qui me ressemblent de manière plus évidente quand on me connaît, d'autres qui me sont très loin en termes d'âge, de sociologie. Mais dans tous les personnages, je vais toujours chercher des choses extrêmement intimes. Il y a toujours une part documentaire aussi. Ils sont nourris, alors aucun personnage n'est telle ou telle personne littéralement, mais ils sont toujours nourris de plein de rencontres, ils sont constitués de plein de rencontres et aussi d'expériences très intimes. Et parfois à des endroits où justement le lecteur ne va jamais débusquer que dans telle phrase ou telle émotion, j'ai mis quelque chose de moi, mais je crois que vraiment, c'est une nécessité pour qu'ils aient de la consistance, qu'ils soient vivants, d'aller chercher dans des choses très intimes.
Un autre aspect de votre roman, c'est d'interroger notre rapport au sauvage. Et je me suis demandé comment est-ce qu'on peut prolonger ce rapport au-delà de la montagne et comment, quand on vit un rapport aussi intime avec la montagne, avec la nature, on peut revenir... À d'autres formes, par exemple revenir à Sciences Po pour faire une conférence, tout simplement.
Ce qui est certain, c'est que c'est une question moi, qui me traverse depuis vraiment, même petite, j'ai envie de dire, depuis l'enfance, parce que j'ai grandi près de la forêt de Fontainebleau, et ça a beau être une forêt très fréquentée, j'avais un rapport très, très intime à cette forêt, j'ai grandi avec des animaux domestiques, notamment des chevaux, des chiens, qui certes sont domestiques, mais enfin qui ont quand même... cette part d'indépendance, cette part de quelque chose qu'on ne comprend pas, qui échappe toujours et à notre contrôle et à notre compréhension, notamment les chevaux en particulier. J'ai fréquenté des cervidés et tout un tas d'animaux, de faune, de fleurs quand j'étais enfant. Et je crois que, évidemment, cette question elle me traversait, mais de manière informulée. Après, j'ai beaucoup voyagé dans des territoires de montagne assez peu anthropisés, et quand je suis revenue en France fin 2020, je me suis dit, mais... mais est-ce qu'il reste quelque chose de sauvage, est-ce qu'il reste quelque chose de sauvage dans le territoire français? Et quand je parle de sauvage, je ne parle pas d'espace qui serait vierge de présence humaine, ce qui de toute façon n'existe pas, puisque même si on prend les paramètres climatiques, l'ensemble du globe est affecté par les activités humaines, on le sait. Mais je parle aussi de ce qui échappe à une forme de contrôle sociétal peut-être, de domestication, et y compris en nous, en chacun d'entre nous et dans les sociétés. Et en Ariège, y compris les gens qui vivent là-bas, c'est un espace qui est à la fois assez marginal, assez militant aussi. Il y a une part d'indomité chez beaucoup de gens qui est due à leur choix de vie, à leur fréquentation de la montagne. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup d'explorer. Et puis moi-même, c'est vrai qu'en menant ce travail-là en particulier, et puis au cours de 15 ans de voyage dans des espaces qu'on pourrait dire assez sauvages, j'ai essayé de reconnecter avec ça, avec une capacité d'être réactive, comment dire, d'être suffisamment en veille et avec une acuité suffisante pour percevoir tout ce qui vit autour de nous et que l'on oublie peut-être de regarder. Et c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué à Paris, parce que hormis quelques oiseaux, il y a quand même moins de traces de vie sauvage. Mais oui, donc quelque part, il y a un point de non-retour. Moi, ça ne m'empêche pas de retourner en ville, mais j'y suis pas de manière permanente et je pourrais pas envisager, je crois, de revivre dans une ville comme Paris à l'année, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui serait plus possible aujourd'hui.
Le titre du roman, il est tiré de l'œuvre du poète arménien, je pense que je vais le prononcer faux, Hovhannes Shiraz.
Oui, je dois te prononcer Hovhannes Shiraz, mais je parle pas non plus l'arménien, donc on nous pardonnera d'écorcher ce nom.
Donc, voici le poème. Nous étions en paix comme nos montagnes, vous êtes venus comme des vents fous. Nous avons fait front comme nos montagnes, vous avez hurlé comme les vents fous. Éternel, nous sommes comme nos montagnes et vous passerez comme des vents fous. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu revenu de cette vision du monde aujourd'hui? Est-ce que la question écologique et puis tous les enjeux qui sont liés ne nous empêchent pas désormais d'éprouver un petit peu ce sentiment d'éternité de la nature?
Alors, je ne sais pas si c'est exactement ça que raconte le poème, peut-être aussi. Alors, bon, c'est un poète arménien, il faut quand même le préciser. Et évidemment, ce poème fait aussi référence à l'histoire des massacres du peuple arménien. Enfin, voilà, ça c'est quelque chose qui est certain. Après, moi, je l'ai plutôt utilisé dans le texte au sens un petit peu littéral, comme cet écho à justement peut-être pas ce qui est éternel, parce qu'effectivement, ces écosystèmes, cette nature sont extrêmement fragiles, et nous avec. Mais encore une fois, la conviction qu'il y a quand même quelque chose qui résiste toujours, qui subsiste, ce qu'on va appeler les mauvaises herbes, ce petit bout de feuille là qui va pousser entre deux pavés à Paris, enfin, cette chose qui quand même arrive à survivre presque à tout ce que... cette nature qui arrive à survivre presque à tout ce qu'on lui inflige. Et peut-être aussi que ce poème résonnait en moi parce qu'il signifiait que, de manière un peu presque mystique, hein, il y a quelque chose de plus grand que nous, de quelque chose qui nous survivra, d'autres formes de vie peut-être, quelque chose de plus puissant. Et je l'ai lu un petit peu dans ce sens-là. Après, je n'ai pas cherché à en faire une interprétation. Il se trouve que c'est un ami berger qui me l'a offert, ce poème, enfin offert en tout cas, qui l'a recopié et qui me l'a fait connaître, que moi je l'ai beaucoup scandé et lu et relu quand j'écrivais, parce que ça résonnait sans chercher trop à le comprendre littéralement. Et j'ai bien aimé en prendre un vers pour en faire ce titre, et vous passerez comme des vents fous, qui est suffisamment mystérieux pour que chacun puisse y projeter absolument ce qu'il veut en fait. D'autant que dans le livre, je laisse un certain nombre de péripéties, de choses non élucidées, parce que j'aime bien qu'en littérature, laisser de la liberté au lecteur. Et donc voilà, le titre peut aussi se prêter à un certain nombre d'interprétations qui éclaireraient ou pas le livre. Enfin voilà, chacun en fait ce qu'il veut vraiment. C'est ça que j'ai bien aimé.
Vous, ça a été quoi votre première interprétation de ce dernier vers quand vous avez lu le poème la première fois?
Vraiment, j'ai pas d'interprétation littérale. Peut-être que si on parle de ce débat de l'ours, de cette question, en fait, parce que la question de l'ours, c'est finalement l'écosystème qui sous-tend la présence de l'ours. Encore une fois, comme je le disais précédemment, c'est un écosystème très riche. L'ours, les biologistes appellent ça une espèce parapluie. Alors, on pourrait dire aussi grossièrement qu'il est entre guillemets en haut de la chaîne alimentaire, mais en haut, ça serait induire une hiérarchie. c'est plutôt de signifier, ce terme espèce parapluie veut dire qu'il a un impact systémique sur tout le milieu, qu'il va vraiment, puisqu'il est omnivore, qu'il consomme aussi bien des larves que des charognes, que de la viande, que des plantes, avoir un impact sur l'ensemble de son milieu. Et donc ce qui m'intéressait, c'était tout ce vivant, végétal, animal, les insectes, les mammifères, etc., qui coexistent avec l'ours, tout ça, toute cette masse vivante, si je peux dire, même masse organique, on peut dire aussi. Et ben, je crois que quelque part, nous humains, on passera comme des vents fous, et puis ça, une partie de ça, entre guillemets, va survivre, quoi. Je l'ai un petit peu vu comme ça. Au-delà des débats qui nous agitent, le débat de faut-il ou non réintroduire trois ours, il me semble être révélateur, au fond, de notre incapacité à cohabiter, de notre incapacité à faire avec, et peut-être aussi du coup de l'échec auquel on se condamne. Enfin, j'espère pas, mais enfin, moi, j'ai quand même une vision assez pessimiste de l'avenir. Mais voilà, je pense que chacun peut en faire l'interprétation qu'il veut.
Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment, au moment, en écrivant ce roman, d'être dépassé par votre sujet? Parce que quand on lit, on se sent un petit peu dépassé par la puissance de la nature, la puissance symbolique de l'ours également. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a habité en écrivant?
En tout cas, moi, j'essaye d'écrire vraiment en immersion. J'aime bien dire que c'est vraiment pas un livre sur la montagne, c'est un livre qui est écrit depuis la montagne. Les forêts, les pentes, les estives, ce monde où coexistent les animaux domestiques, notamment les troupeaux, le monde pastoral, les animaux sauvages, des humains, du végétal, et puis aussi des éléments, le vent, la neige, la terre, etc. Et j'aime bien un peu me perdre dans ce milieu-là, littéralement, parce que j'y passe beaucoup de temps à pied, à aller bivouaquer, à partir, à me couper un petit peu du monde dès que je peux, à aller me baigner dans les torrents aussi, plus simplement, juste à 200 mètres de chez moi. Et voilà, et j'avais aussi envie que ça transparaisse et transpire dans le livre, cette puissance-là, effectivement. Qui habite aussi les personnages, je crois. Et donc, oui, je me suis volontairement laissée un peu déborder, dans le sens où, par ailleurs, c'est un texte qui est écrit au début avec une trame narrative très, très maigre, où j'ai laissé la nature, le milieu, les gens que je rencontrais, ce qui se passait, traverser le livre à chaque page. Et je ne suis pas partie avec un cadre d'écriture trop rigide.
Justement, vous disiez que ce sentiment de dépassement traverse un petit peu les personnages, et je pense notamment au personnage de Gaspard, qui a vécu donc un traumatisme dans cette montagne, et qui dit pourtant qu'il ne pourra pas s'en passer. Et en fait, la nature guérit quelque part aussi elle-même son traumatisme.
Oui, lui, c'est un personnage qui est donc hébergé, qui est en difficulté. Parce que c'est intéressant d'un point de vue romanesque d'avoir des personnages qui sont dans des périodes de doute. Déjà, moi, ça m'intéresse en général dans la vie, les gens qui se posent des questions, qui se remettent en question, qui sont dans le doute. Et puis, c'est aussi beaucoup un moteur pour moi, à titre très personnel. Mais ça m'intéresse aussi au niveau narratif, parce que c'est une manière un petit peu de faire rejaillir toutes leurs contradictions, toutes leurs ambivalences. Et aussi, ça me permettait, à travers la peur que lui traverse, en même temps la passion, d'essayer d'être un petit peu honnête sur la relation à la montagne. Je voulais absolument pas raconter cet environnement comme une sorte de décor de carte postale. Et tous les gens qui la fréquentent assidûment et que je connais, que ce soit des alpinistes, des bergers, des naturalistes, savent à quel point ce sont des milieux qui sont durs, âpres. Tous les gens qui vivent en montagne ont connu des morts, par exemple, aussi. Enfin... dans ces milieux-là, parce que la chute est vite arrivée, ça éprouve le corps. Les gens qui travaillent à l'année dehors le savent. Voilà, quand on ne vient pas en montagne juste pour une semaine de récréation, entre guillemets, l'été, on voit bien que c'est un environnement qui met à l'épreuve, littéralement. Et en même temps, c'est cette mise à l'épreuve aussi que vont chercher beaucoup de gens dans ces territoires, et c'est exactement ce que traverse Gaspard.
Et je trouve que c'est également aussi d'une autre manière ce que traverse Alma. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils se rencontrent pas, puisqu'en fait ils se côtoient de loin, et on aurait pu imaginer une rencontre, et en fait ça n'arrive pas.
Ils se croisent, il me semblait que c'était un petit peu trop évident qu'ils allaient se rencontrer, voire avoir une histoire, ou que sais-je. Et moi, j'avais envie que leur seul point de rencontre, finalement, ce soit cet ours. Et cet ours qui traverse leur vie à tous les deux avec beaucoup de force et qui les obsède chacun pour des raisons différentes. C'était une manière aussi de mettre l'ours au cœur du récit, d'en faire vraiment un personnage à la fois qu'on voit peu et qui ne s'exprime pas directement puisqu'on la croise, on l'aperçoit. Mais on n'est pas non plus dans sa peau, dans sa tête. Ça, c'est pas un exercice auquel je me sentais de me plier en tant qu'écrivain. En revanche, j'aimais bien que ce soit voilà, le point de convergence entre les personnages et que finalement, au-delà de l'ours, ils ne fassent que se croiser. Et ça correspond aussi à une certaine réalité de la vie que je mène, moi, par exemple, quand je suis là-bas en montagne, où il y a tout un tas de gens que je croise, dont la présence est furtive et avec lesquels je n'ai pas plus de contact que ça, parce que c'est aussi un environnement où on rencontre beaucoup de gens qui ont choisi de se mettre volontairement un petit peu à l'écart du monde. C'est aussi une des raisons qui pousse ces personnages à faire ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement misanthropes, mais en tout cas, ils ne cherchent pas la compagnie des autres à tout prix et ils respectent la solitude que l'un l'autre a choisie, quoi. Donc, ce sont aussi des solitaires, des personnages de solitaires.
Une question sur l'ours, qui est donc un des personnages principaux également. Ça ne s'entend pas à l'oral, mais du coup, ce sont des ours dont vous parlez, des ours femelles. Pourquoi avoir fait ce choix de... Puisque c'est un choix qui est quand même souligné plusieurs fois, notamment à la fin, lorsqu'il y a un ourson également. Et Alma dit, elle est persuadée que c'est une femelle, elle le mentionne.
Il y a plusieurs raisons. Alors en plus, ça a été le théâtre d'un débat orthographique, parce que ours féminin, ça n'existe pas, d'après les correcteurs de ma maison d'édition. Et je leur ai dit, je m'en fous, on le garde. Donc voilà, parce que il y a une raison déjà très pragmatique pour le personnage de l'éthologue qui procède à des observations, comme pour le personnage du berger qui est un petit peu harassé par cet ours. Il se trouve que les ours femelles sont beaucoup plus territoriales, puisque comme elles ont des petits à élever, à garder, à protéger, elles sont très liées à un territoire plus restreint, alors que les mâles pratiquent de très très grandes distances et vont vraiment d'un bout à l'autre des Pyrénées. Donc, si on veut créer un personnage d'ours qui va être omniprésent dans un territoire donné et tout le temps rester un petit peu au même endroit, c'est plus vraisemblablement une femelle. Elles sont aussi plus faciles à observer parce que, de la même manière, pour ce qui est de la question de la gestion des oursons, qui ont beaucoup moins de mobilité, surtout au début de leur vie, elles font encore une fois de moins grandes distances, c'est plus facile de les voir. Donc, c'était aussi plus correct d'un point de vue biologique et plausible qu'un berger fréquente régulièrement une ours et qu'une éthologue puisse observer régulièrement un même individu qui soit une femelle. Et puis ça m'a aussi beaucoup plu justement de travailler la figure du féminin et enfin, des figures féminines qui ne soient pas des archétypes féminins aussi bien chez mes personnages humains que non humains et de renverser un petit peu... En fait, je crois que le postulat, dans la plupart des romans, il y a des figures animales très fortes, c'est quand même des mâles. Je sais pas, les talons noirs, dans les trucs de bibliothèque verte des enfants des années 70, mais que beaucoup de gens de ma génération ont lu aussi, le roi lion et que sais-je. Enfin voilà, souvent c'est des mâles en fait. Et je me suis dit, voilà, ça va être une femelle. Ça va être une ours.
Pour terminer, une dernière question. Votre roman illustre les rapports intimes qu'entretiennent la beauté et la violence. Je me suis demandé, est-ce qu'on peut imaginer une forme de beauté sans violence ?
Voilà, c'est une bonne question. En tout cas, moi, j'aime bien le mot d'âpreté, parce que je ne sais pas, est-ce que les rapports entre les animaux, entre les êtres, dans des milieux naturels, sont violents ? Est-ce que manger un pissenlit ou manger un agneau quand on est un ours, c'est violent ? Peut-être que c'est l'interprétation que nous, on en fait en tant qu'humains. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... il y a quand même quelque chose d'une réalité organique, de ce qu'on appelle la chaîne trophique, de la chaîne alimentaire, où les uns consomment les autres, qu'on parle de végétaux ou d'animaux, où un milieu dit naturel, c'est un milieu aussi où il y a des accidents, des blessures, du parasitage, de la douleur, et où évidemment les humains qui sont plongés là-dedans côtoient une très grande beauté, et donc une âpreté, une brutalité, une violence peut-être. Et donc je sais pas effectivement s'il y a de beauté sans violence. Enfin moi j'avais vraiment pas envie de raconter une réalité enjolivée, de parler de la joliesse, quoi, de quelque chose de pittoresque ou de carte postale. Donc ça voulait dire ne pas faire fi de ce qui est, encore une fois, la réalité organique et, de, par exemple, du métier de l'élevage, d'élever des bêtes, de la vie avec les bêtes, qui est intensément marquée, par exemple, par la beauté des naissances, mais aussi par la brutalité de certaines morts, la mort étant omniprésente quand on est éleveur, et pas juste parce qu'on emmène les animaux à l'abattoir, mais aussi parce qu'on côtoie tout un tas de morts accidentelles, plus ou moins tragiques et plus ou moins difficiles à soutenir. Donc oui, je voulais vraiment que le roman soit traversé par ça. Après, j'ai pas de réponse précise à la question, mais c'est ce que j'ai observé dans ces environnements, en tout cas.
On va s'arrêter là-dessus. Merci, Clara Arnaud. Je rappelle la référence de votre roman. Il s'intitule « Et vous passerez comme des vents fous », paru en août 2023 chez Actes Sud. Merci à Arthur, qui était à la technique pour cette émission, et merci au prix littéraire de Sciences Po. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour le prochain entretien.
Radio. Radio. Radio Germaine.